Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Charline. C'est avec la certitude de devenir généraliste comme son papa qu'elle avance dans ses études de médecine. Mais c'était sans compter sur la rencontre qui allait changer sa vie et lui donner envie d'embrasser la carrière de radiologue. Bonne écoute! Bonjour Charline!
Bonjour Marielle!
Comment tu vas?
Ma foi, très très bien! Comme sortie de week-end astreinte, un peu fatiguée.
Ah! Ok. Un week-end bien rempli?
Pas si rempli, mais aux mauvaises heures.
Ah voilà, ouais, ça c'est... Oui. C'est traître, je vois tout à fait. Charline, merci beaucoup du coup de prendre de ton temps pour enregistrer cet épisode avec moi. Je suis très très contente de te recevoir à mon micro. Tu exerces donc en tant que radiologue et je suis contente d'en apprendre plus sur ce métier qui, selon moi, est l'un des métiers dans la branche médicale qui est victime presque le plus du plus grand nombre de stéréotypes. Ouais. Je pense qu'on entend tout à ce sujet. Donc toi, tu vas être là pour tout, voilà, tout balancer, tout mettre de côté et puis tout nous expliquer. Donc je suis ravie de t'avoir à mon micro. Et pour commencer, je te laisse te présenter.
Ouais, je suis ravie de participer aussi à ton podcast que j'écoute du coup depuis le lancement, qui permet de découvrir, c'est vrai, même quand on est du métier, un petit peu les différents profils de métier qu'on découvre pas forcément au jour le jour non plus. En termes de présentation, je m'appelle Charline, j'ai 33 ans, et comme tu l'as dit, je suis radiologue dans un service où on fait beaucoup de radiologie interventionnelle. À côté de ça, je suis aussi paxée, fiancée, à mon conjoint qui est médecin également, et nous avons une petite fille de 16 mois, Juliette. Et voilà, et nous vivons dans le sud de la France.
Oui, je l'entends à ce petit accent chantant que j'adore. Alors, Charline, moi, je voudrais un petit peu rembobiner et savoir, est-ce que pour toi, devenir médecin, puis par la suite radiologue, est-ce que c'était quelque chose qui était clair pour toi depuis toute petite? Est-ce que tu fais partie de ces enfants qui ont joué avec des stéthoscopes en plastique, des choses comme ça?
Alors, pas du tout. Moi, quand j'étais plus jeune, vraiment petite, moi, je voulais tenir un restaurant. Quand on voit comment je cuisine aujourd'hui, on peut se féliciter du fait que j'ai changé d'idée. Mais non. Par contre, c'est vrai que mon père est toujours d'ailleurs médecin généraliste. Et du coup, j'ai quand même baigné dans une ambiance médicale depuis toute petite, avec un père médecin en plus en campagne, donc un peu l'image du vieux médecin qu'on peut avoir. Un peu moderne aussi, hein, mais voilà. Et donc forcément, j'ai quand même baigné dans ce milieu-là. Et puis après, il y a eu beaucoup l'impact, j'aime bien en parler, mais de la série Urgence, pour laquelle j'étais très très fan. On regardait ça en famille, John Carter était mon héros, et je pense que ça a aussi contribué à, de manière dans l'imaginaire, à me dire que c'était un métier qui pourrait me plaire.
Oh, je pense que ça a généré pas mal de vocations quand même.
Hein. C'est sûr. Bon, après, on se rend bien compte que c'est vraiment une série, que c'est pas tout à fait la réalité. Mais c'est vrai que, voilà, je pense que ça fait partie du terreau qui m'ont donné envie de m'orienter vers ça. Et vraiment, faire médecine, c'est apparu assez tardivement, quand même. Comme je disais, petite, c'était pas quelque chose qui m'attirait plus que ça. Et c'est vraiment, je pense, fin seconde, première, où je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire plus tard? J'avais fait un parcours plutôt scientifique, sans non plus être très fan de tout ce qui est mathématiques. C'était pas trop mon truc. Et le milieu de la santé, voilà, m'est apparu assez cohérent avec ce que j'avais envie de faire. Mon père est médecin, mais c'est vrai qu'il m'a jamais influencée pour me dire que c'était bien de faire médecine. Ce que je peux comprendre après avoir fait tout ce parcours, parce que c'est quand même un parcours assez long et voilà, il faut en vouloir quoi. Et puis les quotidiens, n'est pas forcément très évident non plus. Mais après, par contre, j'ai eu un soutien sans faille de ma famille tout le long de mes études. Passé le lycée, où ça s'était bien passé, où j'avais plutôt une élève studieuse, j'ai commencé ma première année de médecine. Et j'ai eu la chance en plus d'avoir le concours de première année du premier coup.
Waouh!
Donc, c'était. Bon, après, c'est une année où je n'ai fait que ça, hein, que travailler. C'était vraiment une année sacrifice, ouais, entre guillemets, même si je ne l'ai pas du tout mal vécu. C'était quand même, comme je le disais, j'étais bien entourée. J'étais en colocation avec une de mes meilleures amies qui faisait également médecine, mais pas dans la même fac, ce qui faisait qu'il n'y avait aucune compétition entre nous. Et on a pu se soutenir comme ça. voilà, avec bien sûr le soutien de ma famille derrière. Et donc cette première année s'est plutôt bien passée. Et ce qui est rigolo, c'est que moi je m'étais dit, donc c'est vrai que la première année de médecine à l'époque qu'on appelait P1, qui est devenue PACES, je crois maintenant, pouvait permettre d'accéder soit aux études de médecine, soit aux études de sage-femme, aux études de kiné, aux études de dentiste à l'époque. Maintenant, il y a même pharmacie qui peut rentrer dans le lot. Mais à l'époque, c'était ces quatre spécialités. Ce qui est rigolo, c'est que je suis rentrée en disant, moi, je ferai tout ce que je peux avoir. Médecine en premier, mais si j'ai une sage-femme, ce sera très bien. Si j'ai kiné, ce sera très bien. Mais par contre, je ne ferai jamais dentaire. Et le jour où j'ai eu la possibilité de choisir, j'ai hésité entre dentaire et médecine. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver un petit peu tout le long, finalement, de mes années, puisque après j'ai commencé donc mes études en deuxième, troisième année, qui sont très théoriques, pas beaucoup de stages, où je m'étais dit je ferai tout sauf médecine générale, c'est bon, non, je sais ce que c'est, je sais que c'est compliqué, que c'est une spécialité compliquée. Et finalement, quand je suis rentrée en quatrième année de médecine, là où on commence à faire des stages en milieu pratique, j'ai commencé avec un stage de médecine générale pendant 2 mois. Ça venait de se lancer. Jusqu'à présent, c'était pas un stage qui était obligatoire et ça allait le devenir à ce moment-là. Et j'ai adoré ces 2 mois de médecine générale. Alors, qui était dans un milieu moins rural que là où j'habitais initialement, donc vraiment à proximité de la ville où je faisais mes études. Donc avec une autre population aussi, et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, et je me suis dit, non mais en fait, quoi qu'il arrive, la médecine générale, je sais que ça me plaira, et je vais tout faire pour essayer d'avoir une maquette, c'est-à-dire un choix de stage dans les disponibles, pour essayer de me former au mieux, pour avoir voilà, tout ce qui peut être utile en termes de médecine générale, je vais essayer de l'avoir là, parce que les années sont quand même assez courtes, c'est une spécialité qui est hyper complexe, car très générale, hein, comme le nom l'indique. Et c'est vrai que j'avais envie voilà, d'avoir un background assez solide. Donc je suis passée en dermato, parce que je savais que c'est quand même assez compliqué. La dermatologie, il y en a de moins en moins. Je m'étais dit que ça valait le coup, par exemple, de me former là-dessus. Je suis passée en hémato, mais une hématologie qui était un peu plus... global en fait, avec des pathologies, beaucoup de gériatrie qui m'intéressait aussi, toujours dans le but de me dire, mais quand on s'est dit à médecine générale, quand même, c'est une population aussi assez âgée. Je suis passée en gériatrie, je suis passée voilà, dans plein de stages comme ça, en me disant, en gros, voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît et je vais tout faire pour essayer de, voilà, de me former au mieux, en plus de la théorie qu'on apprend dans les livres. C'est vrai que moi j'ai toujours considéré que les lieux de stage étaient extrêmement formateurs et là où on apprend son métier en fait.
Complètement. Et quand tu parles de maquette, justement, vous aviez cette possibilité de trouver vos lieux de stage comme ça, d'orienter un petit peu votre choix, c'était possible pour
alors,
vous ?
Alors, c'était possible. En gros, on passait en fonction des années dans certains modules de stage. Avec même l'autre fac, si tu veux, de la ville où j'étais, c'était pas du tout le même système. Hein, donc, c'était pas les mêmes stages au même moment. Et en fait, c'était du tirage au sort d'une lettre de l'alphabet. Et en fonction, tu montais, tu descendais l'alphabet et tu avais un nombre de postes. Et tu choisissais en fonction de ton rang, en fait, donc par pur hasard, quoi. Donc, c'est vrai que si tu as permis d'être cardiologue, mais moi, j'ai un nom de famille qui commence par Z, si tu veux. Donc, la lettre A étant tirée régulièrement ou la lettre D, bon, je me retrouvais quand même souvent en queue de peloton. Et j'ai quand même la chance d'avoir pas mal de stages que j'avais envie d'avoir, mais c'est vrai que c'était pur hasard. On essayait de faire un peu comme on pouvait. C'est vrai que c'était des stages, en gros, si je me souviens bien, de 2 mois. Pareil, la médecine générale, j'étais attribuée à une médecin généraliste qui faisait beaucoup de gynéco et de pédia, ce qui était super, et qui était en plus assez loin de la ville par rapport à, on va dire, 95% des autres lieux de stage qui étaient à 10 minutes de bus de chez moi, quoi. Je devais prendre la voiture tous les matins pour y aller. Donc c'était, voilà, pour les choix de stage, c'était vraiment un peu au pif. Et au petit bonheur la chance en fonction de quelle lettre était tirée le jour du choix. C'est vrai que moi j'ai eu quand même assez de chance de pouvoir me constituer une maquette que je trouvais en tout cas intéressante. Arrive du coup, donc moi je continue tranquillement en préparant le concours en parallèle, puisque donc à la fin de la sixième année, on parle de concours, mais c'est exactement un examen national classant qui fait qu'on va tous faire les mêmes épreuves au niveau national. C'était 9 dossiers cliniques et une épreuve de sciences humaines et sociales. et de choses comme ça. Enfin, non, c'était pas la SHS, c'était de la lecture critique d'articles, que je me trompe pas. Donc en gros, c'était une étude, voilà, où on devait travailler dessus, répondre à des questions, faire un petit résumé pour pouvoir justement essayer de nous ouvrir l'esprit à la littérature médicale. Hein. On l'a vu un peu avec le Covid que c'est quand même très intéressant de savoir lire quelques papiers.
C'est lequel le dire.
Et du coup, cet examen, en fonction de notre score, des notes que nous avons, on peut choisir la spécialité que l'on veut faire et le lieu où on va se former. En sachant que la spécialité dure de 3 à 5 ans, à l'époque en tout cas, en fonction de ce qu'on faisait, c'est-à-dire médecine générale, c'est 3 ans, radiologie, pour parler de ce que je connais, mais c'est 5 ans à la fin de cette 6e année de médecine. Donc, de la 4e à la 6e année, on fait les stages en plus du travail sur les bouquins, afin d'avoir voilà, notre base solide pour pouvoir répondre aux examens qu'on va avoir. Et donc voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin, ma petite maquette, dans le but de devenir médecine généraliste. J'arrive donc en 6e année et on a un stage un petit peu obligatoire, entre guillemets, tout le monde doit y passer, alors avec des maquettes un peu différentes au sein de ce stage, c'est le stage d'oncologie. Alors, je te disais que voilà, je pars d'une idée et puis je fais forcément, j'hésite avec d'autres trucs. Donc j'arrive dans le centre d'oncologie de notre ville. Et là, vraiment, gros coup de foudre pour cette spé. Je suis passée dans un stage qui était pas évident, avec beaucoup de travail, pas facile. C'était vraiment un stage où il y avait un peu de tout. Et moi, ce que j'aime, et je le redis, c'est vraiment tout ce qui est général, en fait, et assez global. Donc, c'était un lieu de stage où je pouvais avoir des patients qui étaient en traitement à but curatif, que ce soit des cancers du testicule ou un cancer d'origine digestive, où je pouvais avoir aussi des patients en fin de vie palliatif ou des patients en essai thérapeutique. J'avais un interne qui était absolument génial, hyper compétent, qui arrivait à passer d'un dossier à l'autre comme ça, et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur cette spécialité, en me disant quand même que c'est un milieu particulier que l'oncologie, sur le plan, il faut pouvoir encaisser sur le plan émotionnel, mais quand même, j'avais vraiment eu ce coup de foudre vraiment pour cet aspect de spécialité, et donc ça, c'est vrai que ça a un peu remis en question à ce moment-là mon envie de changer peut-être, et plutôt que de faire la médecine, m'intéresser à l'oncologie, en sachant que de toute façon, même en tant que médecin généraliste, j'allais suivre forcément des patients avec des cancers. Hein. Ça, c'était évident.
Bien sûr, ouais, bien sûr.
Et alors, ce stage était, c'est vrai, composé d'un mois comme ça, plein, où on suivait donc en service clinique classique. Et après, on avait la chance de pouvoir passer dans pas mal de services annexes, toujours en lien avec l'oncologie. Mais ça me permettait, par exemple, de passer en anatomopathologie, c'est-à-dire la spécialité qui lise les prélèvements. Donc quand on fait des biopsies ou qu'on enlève des organes par la chirurgie, ces gens vont pouvoir l'analyser d'abord en ce qu'on fait la macroscopie par exemple, c'est-à-dire ils regardent la pièce, ils le détaillent, ils la mesurent et puis après on découpe des lames minuscules qu'on regarde sous le microscope. Ça permet par exemple de donner le nom de la maladie, d'avoir exactement quel cancer en l'occurrence c'est, avec des sous-types de cancers, avec tout le développement qu'il y a en place pour voilà, essayer d'avoir aussi le meilleur traitement. Donc, on passait par exemple dans ce service, on passait dans un service de pharmacie, on passait voilà, des demi-journées comme ça. Et je suis passée en une demi-journée dans le service de radiologie, de service d'oncologie, où je suis tombée sur une vieille radiologue, un peu acariâtre, il faut bien le dire, et qui m'a fait comprendre à la fin de ma demi-journée que vraiment mon niveau en termes d'imagerie médicale était proche du néant et que quand même c'était vraiment pas terrible. Ce qui n'était pas tout à fait faux, hein, c'est vrai, mais c'est vrai que la radio, c'est quand même quelque chose qui est très annexe, quoi. On n'a pas de cours de radiologie, ouais, on a des images radiologiques quand on en apprend dans les livres qui sont couplées à des pathologies, mais c'est rare d'apprendre la radio pour apprendre la radio, quoi. Sachant que c'est
oui,
quand même
vrai.
Un monde
y a,
un petit
y a
peu
pas, y a pas un module de radiologie ou autre, c'est tout un peu fait. Dans chaque spécialité qu'on cherche un peu dedans. Quoi.
Voilà, ouais. L'idée c'est que tout le monde, tous les étudiants en médecine aient à peu près l'idée de quelle est la radio thoracique d'un œdème aigu du poumon ou d'un cancer du poumon ou une image de scanner d'une colline néphrétique, de toutes les pathologies, soit graves, soit fréquentes. pour voilà, avoir une petite culture comme eux. Finalement, on apprend un peu de toutes les spécialités. Mais c'est vrai que voilà, c'est compliqué de se dire, hop, aujourd'hui, je me mets à apprendre la radio, quoi. Et donc, cette dame m'a dit, ouais, franchement, c'est un peu nul. Ton niveau est vraiment pourri. Je serai toi, j'essaierai quand même de travailler là-dessus. Bon, très bien. Passer le, voilà, le côté sympa de la remarque, je me dis, mais en fait, elle a pas tort parce que, toujours dans mon idée de médecine générale, finalement, je vais avoir des gens qui vont me ramener des radios et ça pourrait être utile d'avoir ne serait-ce que voilà, quelques notions. Et donc, je me suis dit, ah ben, si au prochain stage, j'ai la possibilité de passer en radio, vu que j'ai fait moi à peu près la maquette que je voulais, là, c'est un peu plus libre. C'était en plus le dernier stage avant le concours dans notre fac. Après, on passait forcément aux urgences, etc. Donc, c'était le seul lieu de stage où j'allais avoir le choix. Et je me dis, bon, allez, c'est parti, je tente d'avoir radio. En sachant que c'était un stage qui était très prisé, pas parce que les gens étaient forcément passionnés d'imagerie, mais parce que c'était un lieu de stage où si tu avais envie de ne pas venir, et donc aller t'enfermer à la bibliothèque pour aller travailler, et donc gagner du temps voilà, sur tes révisions par rapport à tes collègues qui étaient dans un stage plus prenant, eh bien, c'était tout à fait envisageable.
Ah, c'était d'ailleurs un peu le choix stratégique, quoi.
C'était le choix stratégique, tout à fait. Et donc forcément, mais c'était quand même un stage qui partait très vite. Donc je m'étais dit, bon, on verra si j'ai la chance de l'avoir ou pas. Et il se trouve que j'ai réussi à avoir la dernière place dans ce stage de radiologie.
Ah là là là.
Voilà, et comme je dis, moi, enfin, radiologue, c'était pas du tout une évidence, hein. C'était vraiment pas ce que je m'apprêtais à faire, c'était vraiment pour me dire, bon, au moins t'auras vu quelques trucs, ça t'aura complété, et puis voilà. Donc j'arrive dans...
Oui,
dans
c'était ce... à nouveau comme un outil pour,
ouais,
pour la suite, quoi. Mais tu te voyais pas radiologue.
Du tout.
Ouais. Et puis
vraiment
c'est,
du tout.
À la fois, ça se joue qu'à une demi-journée avec cette dame qui en plus te fait cette remarque qui aurait pu te braquer ou t'aurais pu te dire, non mais maintenant je passe à autre chose, elle m'agace. Et non, en plus de ça, tu dis,
fait.
Non mais en fait, elle a pas vraiment tort.
Ouais, ouais.
C'est génial comme histoire.
Tout à fait. Et donc je me ramène dans ce stage, premier jour, perdu. Alors c'est vrai qu'un stage de radio, quand on a fait 3 ans de stage clinique où c'est toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire que le matin, on se réunit, il y a la visite, on pousse un chariot, on ouvre un dossier médical, on va voir les patients, on les examine, on regarde leur biologie, on fait des prescriptions. Enfin, le stage de radio, ça n'a rien à voir. Y a effectivement plein de patients, mais qui ne viennent que 5-10 minutes, donc on les croise plus qu'autre chose. C'est des demi-journées d'échographie, de scanner, on arrive, je ne sais même pas, je ne connais rien au service de l'hôpital, je ne connais aucun des praticiens non plus. Parce que c'est un service vraiment à part, quoi. Donc j'arrive un matin, bonjour, voilà, nouvelle étudiante. Ce matin-là, on est tous présents. Quelques jours après, je ne serai plus que la seule à venir en stage. Et c'est vrai que, par exemple, la première personne que je vois, c'est une chef de clinique de radio qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? En D4, on n'a rien à faire en stage, il faut aller à la bibli pour bosser. On me dit, ah bah t'es super.
Ah ouais, mais même eux, c'est acquis, quoi. Enfin, pour eux, c'est l'évidence.
Je dirais pas eux parce que voilà, mais elle en tout cas, oui, c'était un petit peu
elle,
de ce style là
voilà.
C'est voilà, et j'ai pareil eu un interne aussi. Donc une fois qu'on a fini notre système d'externat, qu'on a passé l'examen concours, on devient interne des hôpitaux, et il y avait un interne donc, qui était assez particulier, puisque bon, après, quand j'ai embrasé la carrière de radio, je l'ai retrouvé comme co-interne après, ce qui est assez drôle. Lui-même disait, mais là, tu es en train de gâcher ta vie. Tu vois, c'était vraiment pas du tout excessif. En plus, tu es en train de gâcher ta vie, ton concours, tu vas rater, ça va être n'importe quoi, tu vas finir médecin généraliste. Ah ben, j'ai dit, ça tombe bien. De base,
et ben, donc, je vais t'en dire une.
C'est ce que j'aime. Donc, bon. Et il se trouve que quand même, je sais pas, ça me plaisait quand même, cette ambiance. J'ai quand même toujours été assez geek dans l'âme, les ordinateurs, c'était un peu mon truc quotidien, j'aimais bien ça, sans être extrême, hein, sans coder, mais voilà, c'était quelque chose, c'était plutôt à l'aise. Et puis, une chose en entraînant une autre, j'avais remarqué une jeune interne qui faisait vraiment ses tout débuts de radiologue, donc je m'étais mis à coller comme ça, puisque ben, c'était un peu la seule qui me parlait, on se connaissait de vue, puisqu'elle était dans la promotion de mon chéri. Bon, elle a l'air sympa, je vais la suivre, quoi. Et du coup, je la suivais, mais comme c'est quelque chose... Voilà, on travaille par vacation, c'est-à-dire qu'une demi-journée, elle était postée à l'échographie, donc j'allais à l'échographie, je la voyais, c'était très bien, je pouvais la suivre. Donc je rentrais, je regardais comment elle faisait. Elle débutait en plus, donc elle avait plein d'interrogations, et c'était un... assez intéressant de voir un petit peu le cheminement et la progression aussi des premières semaines. Mais le lendemain, en fait, son planning était complètement différent. Elle pouvait être même dans un service de scanner dans un autre hôpital. Et du coup, là, j'étais complètement perdue. Et au fur et à mesure, bon, je trouvais des gens quand même de statuts différents. Voilà, il y avait des internes qui étaient très sympas, d'autres un peu moins. Et puis après, on croise forcément des gens. Et j'ai croisé, et là, ça a été finalement la personne qui m'a fait switcher, et qui est d'ailleurs actuellement une de mes collègues, c'est qu'un matin, je me suis retrouvée en vacation de scanner avec une jeune chef de clinique à l'époque, enceinte de 6 mois en plus, qui s'appelle donc Séverine. Et Séverine, je l'ai regardée et j'ai été abasourdie par sa manière de travailler. C'est-à-dire qu'elle est connue hein, dans notre service pour être quelqu'un d'extrêmement efficace, avec un très très bon niveau. Et déjà quand elle était chef de clinique, c'est ce qu'on fait quand on est après l'internat, donc on fait nous nos 5 ans de radiologie et on devient chef de clinique par ailleurs pour 2 ans. C'est pas obligatoire, mais c'est un complément qui nous permet de sur-spécialiser un petit peu dans certaines sur-spécialités de métier justement. Et Séverine, ben, ça faisait partie de ces gens qui étaient voilà, sur leur vacation de scanner, où elle enchaînait la relecture de plein de choses différentes, des patients qui venaient pour un scanner du thorax, pour des contrôles de nodules, elle passait après avec un scanner très compliqué d'oncologie, en tout cas moi ça me paraissait à l'époque extrêmement compliqué, en parallèle de sa vacation bien chargée avec ses 30 scanners, elle avait des coups de fil, mais n'en plus finir, c'est-à-dire qu'elle mettait en pause une lecture de scanner, elle en ouvrait un autre, elle donnait des avis, et là je me suis dit, mais en fait cette femme connaît tous les patients de l'hôpital ou presque.
C'est la Shiva de la radiologie.
C'était là, exactement. Je me suis dit, non mais voilà, cette petite nana là, en fait, tout le monde l'appelle et donc elle participe finalement à la prise en charge de la quasi-totalité des patients de cet hôpital, quoi. Ouais. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. C'est vrai qu'on est là. Pour le côté général, moi, qui m'a toujours attirée, hein, pour le côté très global, je me suis dit, non, mais en fait, c'est un métier parfait.
C'est marrant de se dire qu'on est quand même beaucoup de personnes en tant que soignants à rencontrer quelqu'un pendant notre formation. Et moi, j'ai ce souvenir-là aussi, ouais. Une infirmière qui s'appelle Dina. Voilà, je n'oublierai jamais son prénom, mais je l'ai vue pendant un stage et je me suis dit... pas forcément que je veux devenir comme elle, mais c'est la première que je rencontre et qui incarne complètement ce que je me fais comme image du métier, quoi. Je trouve que c'est génial comme anecdote.
Je n'aurais pas croisé Séverine à cette vacation le mardi, je n'aurais jamais fait radio. C'est quand même fou de se dire à quoi ça va aller. Je n'aurais pas croisé cette radiologue acariâtre, je n'aurais jamais fait radio.
Et est-ce que tu as réussi à lui dire justement à cette fameuse...
Plus que ça, parce qu'en fait Séverine maintenant c'est devenu une collègue. C'est-à-dire que moi j'ai continué, j'ai tout fait en fait dans la même ville. À partir de la première année de médecine jusqu'à maintenant, mon métier, je suis praticienne hospitalière, je ne suis pas départie de ma ville. Et finalement ce service qui m'a ouvert les portes de la radio, c'est celui où je travaille toujours aujourd'hui.
C'est génial.
Et voilà, et donc Séverine, c'est vrai que c'est une de mes collègues avec qui j'adore travailler, quoi. Et son talent n'a pas diminué avec l'âge.
C'est
donc...
ça.
Et donc après, bon, mon stage a duré un mois et demi où je venais régulièrement. Puis vraiment ce côté multimodalité aussi, puisqu'on utilisait la radio, c'est vrai que quand on pense radiologue, on pense forcément aux radiographies standards, les radios du thorax. Quand on se fait mal, on va faire des radiographies du poignet, des os, etc. Mais il y a beaucoup de développement avec des grosses machines imposantes, des machines de scanner, des machines d'IRM. Et tout ça couplé nous permet aussi d'avancer dans les diagnostics. Il y a un petit côté aussi, mine de rien, détective. Des femmes que tu as interviewées, là, qui étaient passionnées, je crois, de détectives privés, etc.
Oui.
C'est un peu ça. Franchement, je me suis dit, moi, mon métier, c'est aussi un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on a 3 mots, 3 indications, douleur, fièvre, syndrome occlusif, et puis à nous après d'essayer de découvrir ce qui se passe à l'intérieur de cette personne.
Complètement, ouais, complètement. Et puis comme tu disais, les radios, oui, parce que dans radiologue, la première chose à laquelle on pense, c'est le rayon X, la radio classique, mais il y a tellement, tellement d'autres outils, ouais. Et puis ça ne cesse d'évoluer avec le temps. Enfin, moi, en 11 ans de carrière d'infirmière, on est arrivé avec des systèmes dont je n'avais jamais entendu parler pendant que je faisais mes études. Il y a aussi des machines qui font la taille d'une pièce entière, puis plus le temps passe, et plus les machines rétrécissent, il y a plein de choses qu'on peut voir.
Ah oui, non, c'est sûr que c'est la technologie. Évolue, les scanners sur lesquels j'ai commencé ont changé, tout s'améliore en termes de technique, de diminution de l'irradiation, enfin de, ouais, ça c'est quand même de plus en plus phénoménal. Bon, tout ça pour dire que je suis sortie de ce stage en étant paumée sur ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais faire oncologue? Est-ce que j'allais faire radiologue? Est-ce que j'allais faire médecin? Je suis repassée en plus mon tout dernier stage, donc l'été, après le concours, en oncogériatrie, où là aussi, coup de foudre, je me suis dit, non mais si je dois faire l'onco, c'est l'oncogériatrie, c'est quelque chose qui me va, c'est quelque chose qui me plaît. J'adore le travail avec les personnes âgées, donc bon, je m'étais dit, voyons, je vais réfléchir. Et au final, pour plein de raisons, je me suis dit, écoute, tu tentes radio, c'est tellement particulier et spécifique que si ça te plaît pas, tu as toujours à temps, si tu as la chance d'avoir la radio, de pouvoir faire un droit au remords. Plutôt dans les deux premières années, quand on choisit une spécialité, on peut changer après. Si le jour de ton concours, tu avais la possibilité de prendre médecine générale ou oncologie, que tu choisis radio, tu as le droit, pendant 2 ans, de changer. Et de te dire, ah ben non, finalement, je... Voilà. Et donc, je m'étais dit, tu commences en radio. Si ça te plaît pas, tu changes. C'est pas grave, ce sera pas 6 mois de perdu. Ça aura été intéressant de voir ça. Et puis, j'ai eu la chance, du coup, après l'examen classant national, d'avoir un classement qui me permettait de choisir radio, en plus, dans la ville où j'étais.
Ah,
et où mon compagnon, en plus, avait lui-même choisi l'année d'avant... cette ville-là, donc c'est vrai que ça nous arrangeait de continuer côte à côte. Et donc, j'ai choisi radio et j'y suis restée.
C'est génial, c'est comme si tout était bien réuni pour que tout se passe. Ouais. c'est le destin.
C'est ça. Et alors là où c'est rigolo, c'est que quand j'ai commencé la radio, puisque voilà, toujours dans mon optique, donc la radio c'était quelque chose qui m'attirait. Et après, la radio, c'est tellement vaste qu'on peut, faire de la radiologie un peu tout venant, et puis après, on peut se surspécialiser. Et dans ces surspécialisations, il y en a une qui est la radiologie interventionnelle, qui n'est pas pratiquée du coup par plein de radiologues, mais par certains qui apprécient ça, puisque c'est quelque chose d'un peu technique, ça peut se rapprocher un petit peu, entre grands guillemets, à des spécialités comme de la chirurgie, c'est-à-dire qu'on utilise des aiguilles, on utilise, voilà, c'est des interventions qu'on réalise sur les gens, sur les patients, à l'aide guidée par l'imagerie. Donc ça peut être guidé par une sonde d'échographie qui nous permet de bien visualiser notre aiguille pour pouvoir l'amener dans un endroit décidé, en évitant tout ce qui est à risque. Ça peut être guidé par la radiologie, donc avec les radios, c'est pas les radios standards où on bloque la respiration et on fait l'image, c'est ce qu'on appelle de la scopie, c'est-à-dire c'est plein d'images secondes qui nous permet de suivre notre matériel, naviguer entre guillemets dans les patients. Et ça peut être aussi guidé par scanner, c'est-à-dire qu'on fait du scanner diagnostique, mais on peut s'en servir pour visualiser également notre matériel et l'amener dans certains organes pour pouvoir réaliser certaines interventions.
Et pour les personnes qui nous écoutent, c'est des je ne sais pas si vous avez parfois vu des images, je ne vais pas du tout employer les bons termes, Charline ne m'en veut pas, mais des images en mouvement où on voit des liquides de contraste qui sont projetés dans certaines parties du corps. Vous voyez, voilà, par exemple, c'est difficile à expliquer en audio, mais c'est peut-être des images que les gens ont en tête. Voilà, ça, c'est la radiologie interventionnelle.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Et ça, mais moi, au départ, quand j'ai fait radio, c'était pas du tout quelque chose qui me branchait. Vraiment, le côté manuel, ça me faisait peur. Vraiment, c'était quelque chose qui m'angoissait beaucoup. Je suis passée par le service dans lequel je travaille aujourd'hui, où pour le coup la radiologie interventionnelle prend une grande part dans notre emploi du temps. Et moi j'ai quasiment fait, je crois, la moitié de mon internat dans ce service.
Ah ouais.
Normalement on est censé bien tourner, faire plein de choses différentes, mais c'est un service qui est très global et ça m'a permis de voir plein de choses différentes. Mais c'est vrai que moi la radiologie interventionnelle, ça me faisait peur, vraiment. Et puis, je sais pas, j'étais malhabile. Mais en fait, ça, c'est comme tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des mains en or d'emblée. Ils sont touchés par la grâce. On va les mettre dans une pièce, un patient, une sonde d'échographie, une aiguille. Ils vont faire des miracles. Et puis, il y a les plus laborieux, dont je faisais partie. Moi, ça a pris du temps.
Ouais, c'est
sûr. Et au final, on travaille tout aussi bien à la fin.
Mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais ce sont des gestes d'une précision extrême, il faut le dire, hein, avec des outils qui sont parfois des instruments qui sont minuscules sur des zones qui sont microscopiques. Enfin, c'est vraiment du travail d'orfèvre. Et ça, bien sûr, peut-être qu'il y a des personnes, comme tu dis, qui naissent avec, une bonne étoile ou quelque chose, mais ça s'apprend et ça doit être dur, c'est évident.
Ben, c'est beaucoup, c'est la répétition. Hein. C'est, de toute façon, c'est, dans chaque milieu professionnel, c'est pareil. Plus on en fait, plus on y arrive. Il y a toujours des gens qui vont être très forts d'emblée, d'autres qui seront toujours moyens, quoi qu'ils fassent. Et puis la grande majorité, quand même, on arrive à faire du bon travail. Et donc, dans le service dans lequel j'officie, disons que la radiologie interventionnelle, c'est très vaste. En gros, si je devais le définir, personnellement, je dirais que c'est en gros la réalisation de gestes techniques d'intervention guidés par l'imagerie. Mais et donc l'imagerie, ça peut être de l'échographie, du scanner, de la radio, de l'IRM, même dans certains centres. Et ce qui est rigolo, c'est que donc forcément à chaque surspécialité, à chaque organe a sa radiologie interventionnelle. On peut faire de la radiologie interventionnelle au niveau neurologique, on peut faire au niveau articulaire, on peut en faire au niveau cardiaque. D'ailleurs, les cardiologues qui font des coronarographies, c'est-à-dire qui montent au sein des coronaires pour déboucher les coronaires en mettant des petits ressorts, ce qu'on appelle des stents, font finalement de la radiologie interventionnelle aussi, mais pratiquée par des cardiologues. C'est pareil pour certains chirurgiens vasculaires qui, maintenant, au lieu d'ouvrir forcément systématiquement les gens pour traiter des pathologies aortiques, eh bien, ils passent directement par les vaisseaux avec des tout petits trous et ils font aussi la radiologie interventionnelle. Donc, c'est assez vaste. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même des choses, en général, plutôt peu invasives, peu risquées. On n'est pas à ouvrir les gens comme des chirurgiens le feraient avec un scalpel. Nous, tout est à des aiguilles, comme une épingle de couture, quoi. Donc, on fait rarement des points de suture dessus. Donc, c'est des choses, finalement, assez peu invasives, qui peuvent avoir des complications. Hein. C'est pas du tout ce que je veux dire, hein, mais qui nous permettent aussi de traiter des gens trop fragile pour pouvoir avoir des chirurgies, par exemple. Et c'est vrai que nous, on est dans un service où on fait beaucoup de digestifs. Moi, je suis surspécialisée en imagerie digestive et aussi, du coup, en gestes dans la sphère digestive et surtout la sphère d'oncologie digestive, au final. Mais voilà, moi, j'ai des collègues dans mon service qui font beaucoup d'urologie, donc tout ce qui est rein, vessie, prostate et de gynéco. Et j'ai des collègues qui vont faire beaucoup de cardio-thoracique. Et donc, chaque surspécialité a ses propres gestes de radiologie interventionnelle. Et ces gestes peuvent être... Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut apporter quelque chose de diagnostic, c'est-à-dire réaliser des prélèvements, faire des biopsies guidées par l'imagerie. Ça nous permet d'avoir des diagnostics de pathologie sur lesquels on va pouvoir proposer des traitements, médicamenteux ou pas. Et on a aussi toute une valence thérapeutique. Des gens, par exemple, moi ce que je fais beaucoup, c'est des gens qui vont avoir des tumeurs hépatiques malignes, donc soit des carcinomes hépatocellulaires, hein, c'est-à-dire des tumeurs d'origine hépatique, soit des lésions secondaires, des métastases au niveau hépatique. On peut les traiter parfois par ce qu'on appelle de la thermoablation de la radiofréquence ou du micro-ondes, c'est des techniques assez cousines, où en fait le but c'est de mettre une aiguille à l'intérieur des nodules, sans ouvrir du coup, sans enlever une grande partie du foie, et à travers cette aiguille on va chauffer et détruire des tumeurs de manière curative.
Oui, c'est important ce que tu dis, c'est la radiologie, elle n'est pas là que pour, et c'est déjà très bien si elle faisait que ça, mais elle n'est pas là que pour diagnostiquer, trouver des pistes, trouver des problèmes, des causes, des symptômes, des choses.
C'est ça.
Elle est là aussi pour traiter des problèmes, et comme tu dis, peut-être éviter à des gens, typiquement pour la radiofréquence dont tu parles, de passer au bloc opératoire, d'avoir une ouverture sous-costale qui serait immense pour aller chercher ces tumeurs une à une.
C'est vraiment par voie cutanée, c'est-à-dire qu'on traverse le ventre quoi, des gens avec des petites aiguilles, et ça nous permet, avec l'aide de l'échographie la plupart du temps ou du scanner, de positionner notre aiguille exactement au bon endroit, en évitant de passer à travers des vaisseaux importants, des choses qui pourraient saigner, créer des complications. Donc on peut faire ça. Tu parlais effectivement d'ouvrir ce qui est l'alternative. C'est vrai que le traitement de référence d'une tumeur hépatique, ça va être d'enlever la tumeur chirurgicalement. Et si on peut le faire, et si le patient peut l'encaisser, on priorise toujours ça parce que c'est la meilleure des méthodes actuellement. Mais parfois, une lésion petite qui est placée en plein milieu du foie, ça viendrait chirurgicalement enlever quasiment la moitié du foie. Alors que moi, finalement, quand on fait de la radiofréquence, il suffit d'amener l'aiguille, de chauffer sur 2-3 cm, et donc d'enlever 3 cm de foie, et de traiter de manière très satisfaisante. Et ça nous arrive aussi d'associer finalement un traitement chirurgical à un traitement de radiofréquence, y compris dans un même geste, c'est-à-dire que le patient va être opéré, donc elle va être pour le coup ouvert, et nous, directement à travers le foie, on va positionner notre aiguille sur des métastases ou c'est plutôt des métastases hein, dans ce cas-là, pour pouvoir la détruire et éviter voilà, d'enlever trop de foie ou sur des zones un peu complexes qui ne sont pas accessibles à la chirurgie, de pouvoir voilà, être curatif et d'enlever le maximum de lésions chez ces gens. On est vraiment en collaboration quand même avec énormément de spécialités forcément.
Eh oui, c'est sûr, c'est sûr.
Et voilà. Et il y a plein de choses. C'est vraiment, on travaille en main dans la main parce que en post-opératoire, c'est fréquent que sur certaines chirurgies, notamment digestives, il y ait des collections, par exemple, qui apparaissent. Il y a un peu du liquide qui va se former, se surinfecter, ça va faire une boule de pus finalement assez profonde. Bon, on pourrait très bien réouvrir les patients, enlever ça, faire un nettoyage, refermer. Mais ça commence à faire pas mal d'interventions pour des gens qui sont, on y revient souvent, mais pour la plupart du temps assez fragiles. Alors que nous, finalement, ça peut arriver que le chirurgien nous appelle en nous disant « Ben voilà, il y a cette collection, est-ce que tu penses que tu peux mettre un drain en passant par la peau, en se guidant par l'échographie ?» Et ça permet d'éviter que la personne soit reprise. Nous, c'est beaucoup de gestes qu'on peut faire aussi sans anesthésie générale. Donc ça,
c'est ce que j'allais
dire. Par exemple, un drainage de collection, ça va se faire sous anesthésie locale. Et il y a beaucoup de gens comme ça, souvent âgés ou avec beaucoup de pathologies, de comorbidités, qui ne peuvent pas être endormis ou qui ne peuvent pas avoir accès à certaines chirurgies. Et la radiologie interventionnelle va pouvoir leur apporter soit un traitement thérapeutique, soit un traitement palliatif, soit du confort. Avec justement beaucoup de gestes qui peuvent être... Voilà, peu à risque de complications, même s'il y en a forcément toujours, et surtout sans forcément devoir les endormir complètement. Et donc on a finalement une population de patients qu'on peut traiter par le biais de la radio, hyper importante.
On n'a plus ce besoin d'ouvrir les gens voilà, sur des très grandes ouvertures, de la parotomie, etc. On peut se permettre de, voilà, d'intervenir à l'endroit donné avec des choses de plus petite taille pour qu'il y ait moins de risques voilà, de saignement, ne serait-ce que les suites post-opératoires, etc. Et comme tu le disais aussi, de s'éviter une énième anesthésie générale, parce que pour en avoir vu des patients qui sont endormis, réendormis, avec tout ce que ça peut engendrer pour leur organisme, et puis pour des personnes qui, de toute évidence, sont soit pas intubables, soit qu'on ne peut pas endormir d'une façon ou d'une autre, et auquel cas on peut faire appel à de l'anesthésie locale, loco-régionale, et voilà, quand on parle de progrès de la médecine, je pense que ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais ça en fait partie.
Et c'est vrai que c'est une spécialité qui est peu connue, déjà, parce que la radiologie en tant que telle, je pense, c'est compliqué. La plupart des gens ne font pas, par exemple, la distinction entre le radiologue qui va analyser les images et le manipulateur radio qui va faire réaliser l'image en tant que telle. C'est-à-dire, le manip radio, c'est celui qui vous amène dans la salle, qui vous perfuse si c'est nécessaire, qui va prendre le cliché de radiologique ou créer l'examen. Mais après, nous, on est derrière, et donc c'est vrai qu'on n'est pas trop exposé à la vision de la population. Si on rajoute en plus cette radiologie interventionnelle qui est peu appliquée, c'est vrai qu'il y a peu de centres de radio où on fait de la radiologie interventionnelle, ou en tout cas un aussi grand panel, parce que nous, on a un gros service universitaire, donc forcément, on a beaucoup de patients, c'est un centre assez lourd, mais des biopsies, des drainages de collection, ça peut se faire, il faut pas grand-chose en termes de matériel, et ça pourrait se faire partout, quoi, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est forcément très courant, parce qu'il y a beaucoup, finalement, de gens qui se disent qu'ils sont suffisamment utiles déjà, rien qu'en lisant des radios ou des scanners, ce qui est tout à fait vrai. Mais c'est vrai que c'est une petite plus-value pour les patients, une grande plus-value d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis petite, mais voilà, de pouvoir proposer ce genre de traitement. Et c'est aussi rigolo, finalement, de voir des gens un peu à plusieurs moments de leur parcours de santé. C'est des gens à qui on va faire une échographie X ou Y, on va dépister peut-être quelque chose au niveau hépatique, on va faire le scanner derrière, qui va mettre en évidence effectivement que c'est peut-être, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, un cancer du côlon avec des lésions secondaires hépatiques. Il va falloir avoir le nom de ce cancer. Donc on va le biopsier au niveau hépatique pour avoir le nom de cette maladie, pouvoir mettre les chimiothérapies, peut-être aussi l'amener après à un projet chirurgical d'enlever la tumeur du côlon et les lésions secondaires, avec peut-être dès la thermoablation de la radiofréquence hépatique. Ou alors plein de petites choses. Et c'est vrai que donc, c'est des patients qu'on peut suivre pendant des mois et des mois. Et finalement, ça nous rapproche un tout petit peu plus, peut-être, des parcours médicaux plus fréquents avec un service, un patient qu'on va suivre de manière... quotidienne, ou en tout cas le long de toute sa vie, hein, de patients, hein, mais oui, oui. C'est vrai que voilà, on a forcément tous des patients que l'on suit depuis très longtemps et à qui on s'attache.
Est-ce que en termes de relationnel, justement, alors en dehors de ces patients dont tu parles, voilà, que tu suis du coup sur des parcours de soins qui sont très longs, si ce sont pour des voilà des cancers, ce genre de choses, est-ce que en termes de relationnel, tu te sens comblée, satisfaite, parce que j'imagine que ce sont des gens parfois que tu vois peu de temps.
C'est vrai que alors, pour le coup, c'est beaucoup, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui, à une époque en tout cas, choisissaient radio, justement parce qu'il y avait peu de contact avec les patients. Ce qui est tout à fait envisageable. Hein. Après tout, quand on commence métier, on ne sait pas trop comment on va se comporter dans le milieu de la santé. Travailler avec des personnes souffrant, malade, c'est pas finalement si évident et on n'est pas tous fait pareil. Et donc c'est vrai que pour des gens qui étaient passionnés de médical mais qui n'étaient pas à l'aise avec les gens, c'était aussi un métier tout à fait envisageable. Alors moi j'ai pas pris radio pour pas voir les gens, même si je suis d'un naturel extrêmement timide et que ça m'a pris beaucoup de temps à être à l'aise et à pouvoir voilà communiquer, m'occuper directement de gens, un travail pareil hein, de longue haleine, mais j'ai pas pris radio en me disant ça va m'éviter de voir des gens et du coup c'est vrai que ce côté est-ce que ça va me manquer l'examen clinique, ça c'est vrai que c'est des choses qu'on fait pas, on n'a pas de stéthoscope en radio, on va pas écouter les poumons des gens, on va pas les palper, nous c'est vrai que quand on fait un examen abdominal c'est pas avec notre main, c'est avec une sonde échographie ou avec un scanner, donc au départ, je m'étais dit, bon, est-ce que vraiment ça va pas me manquer, toute cette partie un peu clinique, un peu voilà, de relationnelle classique. Et fort est de constater que ça me convient finalement plutôt bien. Les patients, comme tu le dis, ben, le fait d'intervenir sur eux, entre guillemets, hein, ça crée du contact. On les voit aussi en consultation. C'est des gens, pour tout ce qui est acte programmé, on va les voir avant pour leur expliquer ce qu'on va faire. Donc moi, ça va être beaucoup ben, sur les... comme tu parlais de destruction de tumeurs, ça peut être aussi certains types de chimiothérapie que l'on va faire en ponctionnant une artère et en naviguant à travers les vaisseaux, donc tous ces gens-là, on les voit avant pour leur expliquer un peu comment ça va se passer, justement parce que c'est pas connu. Mes collègues, par exemple, j'ai une collègue qui fait beaucoup de gynéco et de pelvis en général, c'est-à-dire qu'elle va voir des patients complètement différents, elle va voir des patients d'un certain âge qui ont des problèmes de prostate, qui ont du mal sur le plan fonctionnel à uriner, etc. Et pour éviter d'enlever la prostate avec des complications auxquelles on peut s'attendre, notamment des problèmes sur toute la sphère érectile, etc., ben depuis plusieurs mois maintenant, elle passe par les vaisseaux pour emboliser les artères, c'est-à-dire envoyer des petites billes, en gros, au sein des artères prostatiques pour diminuer le volume de la prostate. Elle fait pareil avec des jeunes femmes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui ont par exemple des problèmes de congestion pelvienne avec des grosses varices qui peuvent être très gênantes sur le plan fonctionnel, ou elle fait pareil avec par exemple des dames qui ont des fibromes mais qui ne veulent pas être opérées pour des projets de grossesse ou juste parce qu'elles n'ont pas envie qu'on enlève l'utérus, et bien ça c'est une possibilité, donc ces gens-là pareil, elle les voit en consultation avant et elle leur explique qu'on va mettre, voilà, on va faire une ponction au niveau d'une des artères du pli de l'aine, on va mettre des petits cathéters, des petits tuyaux à l'intérieur pour rentrer dans la bonne artère, celle qui alimente les différentes, soit fibromes, soit varices. Varices, c'est plutôt du veineux, mais c'est à peu près le même principe hein, de tuyauterie, entre guillemets. Et puis, par ce biais-là, on peut aussi voilà, améliorer grandement les symptômes de gens hors onco. C'est vrai que je parle beaucoup d'oncologie parce que moi, ben, c'est un peu ce que je fais au quotidien, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de fonctionnels aussi qui peut être très utile.
C'est sûr. Moi, j'ai une question que j'aime bien poser, c'est quelles difficultés tu rencontres dans l'exercice de ton métier, de quelque aspect que ce soit.
Alors, les difficultés, moi, ma principale difficulté actuellement, c'est le temps. C'est-à-dire que on est dans un service où on travaille beaucoup, on est finalement peu nombreux pour un grand établissement où on fait beaucoup de surspécialités, donc de la cardio, du dige, etc. Et mine de rien, mais c'est un gros volume horaire vu qu'on est peu nombreux. Et c'est difficile, je trouve, alors d'autant plus maintenant que j'ai une petite fille, d'arriver à allier la vie professionnelle et la vie perso. Moi, c'est actuellement la difficulté. Après, la difficulté que je peux avoir indépendamment de ça, ben, c'est quand ça, c'est quand les gestes que je fais ne se passent pas bien. Ça arrive, heureusement, assez rarement, mais des complications, y compris les complications les plus graves, hein, ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore. Et c'est vrai que, bon, c'est assez compliqué, quoi. Surtout que, voilà, nous, mine de rien, même s'il y a des gens qu'on suit tout le long de leur pathologie, il y a aussi beaucoup de gens qu'on ne croise qu'une fois, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont venir pour réaliser un ou deux gestes et puis repartir. Et donc, forcément, on n'a pas forcément la même relation, c'est pas des gens qu'on voit systématiquement pour le coup en consultation avant. Et donc, dès que c'est forcément une complication sur des gens avec qui on n'a pas forcément tissé de relationnel avant, c'est d'autant plus compliqué, je trouve, de gérer après sur le plan relationnel ou technique. Ça, c'est une petite difficulté supplémentaire qu'on peut avoir. Après, moi, je suis quand même, j'adore mon métier, je suis passionnée. Cette nuit, tu vois, je suis partie à minuit pour aller arrêter, faire emboliser, c'est-à-dire, en gros, un patient qui saignait d'un vaisseau, ben, aller à distance, le boucher sans pouvoir l'ouvrir. Bah, tu rentres, t'es content, quoi.
Ah, oui. Quel sentiment de satisfaction, quand même.
Mais c'est vrai, t'es pas content de te réveiller à minuit pour y aller.
Ça, c'est sûr.
Mais bon, tu te dis, au moins... Au moins, bon, pour lui, je vais peut-être aider à passer le cap, quoi. Donc, et ça, c'est plein de petites, voilà, de petites choses assez gratifiantes, mine de rien, qui, voilà, où on a un résultat, entre guillemets, en direct, quoi. C'est vrai que pour beaucoup de choses, en médecine, ben, tu vois un patient, tu mets un traitement et t'as pas forcément le résultat de suite.
Oui, c'est vrai.
Ça fonctionne.
Oui, c'est vrai.
Soit un antibiotique ou des chimios, alors que là, ben, t'as un vaisseau qui saigne, tu vas à l'intérieur, tu mets des petits ressorts, des petits, ce qu'on appelle des coils, pour boucher le vaisseau, et le vaisseau est bouché, et c'est fini.
Il y a un aspect très satisfaisant, parce que j'avais pas du tout pensé à ça, mais oui. Le côté action, résultat, bon, ça, c'est vrai que c'est indéniable, ouais. C'est agréable.
Résultat, oui.
Et j'imagine aussi parfois de réussir à poser un diagnostic sur, enfin pour l'avoir vu moi en tant qu'infirmière, de voir des médecins, des radiologues poser des diagnostics sur des gens qui ont une clinique catastrophique depuis des mois, qui ne savent pas d'où vient le problème, et puis qu'un jour un radiologue dit ben voilà, le problème il est là, ça doit être quand même sacrément satisfaisant aussi.
Tout à fait, c'est extrêmement gratifiant, que ce soit pour déjà amener le diagnostic au patient et pouvoir lui apporter une prise en charge adaptée, et puis par rapport à nos collègues, nous, je n'ai pas trop parlé là, mais c'est vrai moi je travaille main dans la main avec plein d'équipes intra-hospitalières, hein, beaucoup forcément des chirurgiens digestifs, des hépatologues, des gastro-entérologues, beaucoup les urgentistes aussi, hein, puisqu'on a un gros service d'urgence, et nous tout est mélangé, on n'a pas des gens qui font de l'urgence, hein, on fait tous un peu de tout, hein, dans notre service, et c'est génial, le patient arrive avec une suspicion, et puis finalement peut-être ça va être ça, et c'est top, et peut-être qu'en fait on va découvrir complètement autre chose qui va faire basculer sa prise en charge, et c'est vrai que bon, c'est comme un détective privé ou un policier
on en revient
criminel
toujours
qui
là,
va remonter les indices. On en revient toujours là, hein, au final. Et c'est vrai, oui, non, c'est très satisfaisant.
Ouais.
Bon, le corollaire, c'est que quand on ne comprend pas ce qui arrive, c'est très frustrant.
Ah,
et
ouais,
ça arrive quand même de temps en temps. Mais la multiplication des choses, c'est-à-dire qu'on va pouvoir découvrir quelque chose à une échographie, proposer un scanner, ah, peut-être que là, on va savoir ce que c'est, ah ben non, on ne sait pas, alors faisons peut-être une IRM, ah ben l'IRM, on a peut-être une idée, et puis bon, finalement, on va pouvoir le réadresser pour faire, je ne sais pas, d'autres examens, d'autres spécialités, mais ouais, c'est très...
Et c'est quelque chose que les patients ont parfois un peu de mal à comprendre aussi, j'ai l'impression, peut-être, je sais pas, le lundi scanner, le mardi IRM, et dire « mais je n'arrête pas de passer des examens et on ne trouve jamais la cause ». Oui, mais en fait, aucun de ces examens ne permet de voir la même chose, donc on est bien obligé aussi parfois de passer par toutes ces étapes.
Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est extrêmement frustrant, je le comprends, hein, quand on est patient et qu'on passe une écho ou un scan et on vous dit « ben non, là, je suis désolée, mais l'examen est complètement, strictement normal ». Oui, mais moi j'ai mal. Et c'est vrai que c'est très compliqué dans ce genre de situation de leur dire qu'effectivement, ben, ils ont tout à fait enfin, on les comprend, ils ont mal, c'est une certitude, mais que nous, on n'a pas réussi à trouver, à expliquer leur douleur. Et ça, oui, ça, c'est une petite difficulté, alors qu'il n'y a pas, voilà, on s'habitue, hein, de toute façon, à leur expliquer que le fait de ne rien trouver ne remet pas en question ce qu'ils ressentent. C'est juste qu'on a éliminé des choses et qu'après, ben, il va falloir soit aller un peu plus loin dans d'autres explorations qui ne sont pas forcément du ressort de l'imagerie, d'ailleurs. Soit, ben, après, il y a toutes les pathologies fonctionnelles ou quoi qu'on fasse, de toute façon, on ne trouvera pas exactement de quoi il s'agit. Et là, c'est plutôt la thérapeutique, hein, essayer de les soulager, qui est importante.
Oui, et c'est vrai que, comme tu dis, même si on ne trouve rien, entre guillemets, à certains examens, mais mine de rien, on avance quand même, parce qu'on peut dire à un moment donné, écoutez, tel aspect se porte bien.
Voilà, c'est ça.
Tel autre aspect aussi, puis pendant ce temps-là, voilà, l'entonnoir se resserre un peu, puis on arrive à trouver la cause au bout d'un moment. Eh bien, merci beaucoup, Charline, pour tout ça. Je pense qu'on pourrait en parler des heures, surtout avec cette surspécialité que tu as par-dessus, mais c'est... Je suis très contente, en tout cas, d'avoir ton regard sur ce métier, et puis pour les personnes qui nous écoutent, quand on dit que radiologue c'est facile, et écoutez, je crois qu'on a quand même réussi à prouver que pas tant que ça, hein. C'est une spécialité qui est beaucoup plus complexe.
Dans les séries télé, tout le monde est radiologue.
Oui.
Quand on voit Dr House, forcément, ils font tous de la radiologie, ils font tous de la radiologie interventionnelle aussi, et on se dit, en fait, c'est à la portée de tout le monde.
C'est
un métier comme le nôtre, c'est 5 ans d'études après l'internat, un peu plus si on veut en plus faire des gestes techniques associés. C'est un métier. Assez beau, assez méconnu, et j'espère du coup avoir un petit peu, en tout cas, susciter la curiosité des gens.
C'est certain.
Peut-être les rassurer aussi un peu sur, ils vont...
c'est vrai.
Avoir un traitement ou un examen, leur dire qu'on est derrière. Et...
Voilà, vous êtes entre de bonnes mains.
On essaie de faire au mieux pour... c'est ça.
On va finir par le portrait chinois, Charline. J'ai quelques petites questions à te poser pour te connaître encore un petit peu mieux. La première question, si tu avais une baguette magique, quel outil voudrais-tu inventer pour t'aider dans ta pratique ?
Nous, ce qui est bien, entre guillemets, avec la radiologie internationale, on en parlait, c'est que technologiquement, il y a plein d'aides et d'outils qui apparaissent au fur et à mesure. Donc moi, je vais vraiment partir sur le côté magique et j'aimerais bien une espèce de... Je sais pas, comme un retourneur de temps d'Harry Potter, tu vois, le truc qui te permet de doubler tes journées et d'être deux endroits à la fois.
Très bien.
Ça me permettrait de pouvoir faire mon travail à des heures correctes et pas rentrer trop tard tous les jours.
C'est ça. Et puis que par exemple l'appel de cette nuit à minuit soit décalé, soit nettement plus tôt, soit nettement plus tard. Hein.
Voilà, éventuellement.
La question suivante, si tu étais un médicament, lequel serais-tu ? Alors, je parle de médicament, mais tu peux aussi me parler de... Je sais pas, de quelque chose que tu utilises, en tout cas, au quotidien.
Je vais vraiment jouer la question, hein, médicament. Alors, c'est vrai qu'en tant que radiologue, moi, des médicaments, je n'en connais pas des mille et des cents. Donc, je vais prendre la xylocaïne, qui est un anesthésiant local que j'utilise au quotidien, là, pour le coup, et qui nous est vraiment utile, surtout pour les gens sur lesquels on travaille, entre guillemets. Xylocaïne.
On retrouve partout, y compris dans les petites pastilles pour le mal de gorge, hein, pour information.
Oui, ou chez votre dentiste, hein, c'est ce qu'on dit aux gens, nous, avant d'utiliser. Je ne suis pas sûre que ça les
non, mais c'est vrai.
Rassure plus que ça, voilà.
Mais au moins, on voit vers où ça va.
Plus.
Exactement.
Voilà.
Question suivante, plutôt thé ou café ?
Alors, à la maison, thé, au travail, café.
Très bien. Question suivante, plutôt crocs ou basket ?
Alors, hors bloc opératoire, basket. Et par contre, au bloc, obligation d'avoir des chaussures, donc crocs. Alors moi, c'est pas de la marque Crocs, mais voilà. Ça y ressemble. De sabots de bloc.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Question suivante, plutôt 10 ans dans le même lieu d'exercice ou 10 lieux d'exercice en un an ?
Alors, moi, ça va faire 10 ans maintenant que, quasiment là, en septembre, 10 ans que j'aurai commencé ma carrière de radio. Comme je te l'ai dit, les 5 premières années, la moitié du temps, je l'ai fait dans le même service. Là, ça fait 4 ans que j'y suis, donc 10 ans dans le même service.
Ouais, c'est parti comme ça.
Peut-être 40 ans dans le même service. On verra.
Et la dernière question, si tu n'avais pas exercé le métier de radiologue, vers quelles études ou vers quel autre métier te serais-tu orientée ?
Alors... Si dans le milieu de la santé, si j'avais pas fait médecine, entre guillemets, soit oncologue, enfin, si j'avais fait médecine, soit oncologue, soit médecin généraliste. Médecine, je me serais très bien vue dentaire, finalement, alors que c'était quelque chose qui me plaisait pas, mais je trouve toujours dans ce côté général, entre guillemets, et surtout bénéfice aux patients, je trouve que c'est une spécialité superbe. Qui n'est pas très ragoûtante forcément vu comme ça, mais une rage de dents, moi je n'en ai jamais eu, mais je pense que c'est une douleur terrible. Vous allez chez le dentiste, il vous soigne, c'est fini. C'est génial. Et puis avec une qualité de vie, je pense, assez sympa aussi par rapport à ce qu'on peut avoir dans ma vie, mais dans pas mal d'autres spécialités. Quoi. Je pense que c'est, en termes d'horaire, de choses comme ça, c'est quand même un peu plus cool.
Complètement.
Et sinon, si je n'avais pas fait dans le milieu médical, je pense que je serais devenue ingénieure du son.
Ah.
Qui n'a rien à voir. Ouais.
Bah, je vais t'embaucher pour monter les épisodes de podcast.
Ouais, alors il vaut mieux pas. Parce que je pense que, comme tout mon métier, il faut l'avoir étudié. Et comment te dire que je n'ai pas eu trop eu le temps à côté de.
Ah oui, puis alors, ça, c'est.
De tenter de me.
C'est un sacré domaine.
Dans la matière.
Ah ouais, là, il y a du travail. Hein. Je te dis, moi, je touche ça du bout du doigt parce que vraiment, je n'oserais jamais dire que je suis ingénieur du son. Ouais. Mais alors, écoutez, c'est un métier, hein, vraiment. C'est un métier. Bon ben un grand merci Charline pour tout ça.
Mais c'est moi qui te remercie et puis je suis vraiment ravie d'avoir apporté ma petite pierre à ton édifice.
Ah ben ouais, c'est moi qui suis ravie, je suis très très contente d'avoir voilà, ce regard beaucoup plus réaliste sur la profession et je suis sûre que tout le monde en a appris beaucoup, à commencer par moi, donc je suis certaine que tout le monde en a appris. Merci beaucoup Charline.
Mais je t'en prie, je te remercie.
À bientôt.
À bientôt.
Promettez-moi désormais de porter un regard différent sur notre cher Dr House quand vous le verrez amener son patient au scanner, puis jouer les radiologues alors qu'il n'en a pas le diplôme. Un grand merci à Charline pour ce regard très éclairant sur le métier de radiologue. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode.